Au réseau Cogeco, vous écoutez Le Québec maintenant. Le Québec maintenant. Avec Marie-Claude Lavallée. Le Québec
maintenant. Pour notre belle rencontre de l'été ce soir, on accueille une femme qui s'apprête à participer aux Jeux de Tokyo comme analyste. On peut dire qu'elle connaissait de très très près les Jeux olympiques puisqu'elle a remporté l'or à Barcelone, l'argent à Atlanta et reçu par la suite les grands honneurs autant à Québec qu'à Ottawa. Difficile de croire qu'elle était une enfant hyper, hyper timide quand on la voit et on l'écoute aujourd'hui. Croyez-moi, elle n'a pas peur de ses opinions. On pourrait même dire que c'est sa grande franchise, sa transparence qui ont eu raison du siège qu'elle convoitait aux dernières élections fédérales comme candidate conservatrice. Dommage en fait, parce que des gens qui osent critiquer le chef, c'est tellement rare. C'est une femme qui a traversé pas mal d'épreuves dans sa vie, mais qui les a surmontées de brillantes façons. La championne olympique est désormais entraîneuse en natation artistique ou nage synchronisée, comme on disait il y a quelques années. La fière maman de deux grandes filles, Sylvie Fréchette, est avec nous. Salut Sylvie!
Salut, quelle belle présentation!
Ben écoute, j'ai juste pris quelques instants pour penser à toi puis me dire qu'est-ce que je ressens de cette personne-là et ça donne ça!
Wow, merci.
Ça me fait tellement plaisir, Sylvie. Sylvie, analyste pour Radio-Canada, pour les Jeux olympiques, natation artistique. Est-ce qu'on se prépare beaucoup pour faire ça? Est-ce qu'il faut que tu vois les performances de chacune là, au cours des derniers mois? Ou est-ce que tu te présentes, tu regardes, tu as tes points que tu... Évidemment, tu connais ça par cœur. Comment on se prépare?
Ben en fait, ma préparation est, comme on dit en anglais, ongoing. Tu comprends? C'est par ma passion, par mon investissement, par tout le temps que je passe trempée, c'est le cas de le dire, dans l'eau de piscine. Mais je connais déjà pas mal les athlètes, les pays. Mais ce que je me souhaite comme analyste, c'est d'être capable d'orienter les spectateurs, les auditeurs, les téléspectateurs à quoi regarder, à voir les différences, mais de savoir me taire aussi pour les laisser se faire un jugement, se faire une idée, se laisser impressionner par les performances que les gens vont voir parce que la natation artistique, là, ça n'a pas juste changé de nom, ça a changé de standard. Ça va être très, très, très perceptible et visible au niveau des équipes. Les poussées acrobatiques, la vitesse de mouvement, de déplacement, excuse-moi, Québécois, mais c'est rendu débile. C'est incroyable de voir la performance des athlètes. Alors, j'espère être capable d'accompagner les gens qui vont nous suivre, mais surtout de leur laisser la place d'être complètement comme « wow » parce qu'ils vont voir.
D'en profiter. Dis-moi une chose, une question très, très technique, mais quand même qui va toucher les auditeurs, je suis sûre. Toi, quand tu faisais tes performances, fallait que tu tiennes combien de temps en dessous de l'eau sans respirer?
Ben, ça dépend de l'effort qu'on fait.
Parce que ça tournait des fois à plus qu'une minute, là.
Oui, ben dans les figures imposées, donc c'est des mouvements qui sont... Ben dans mon temps, là, on avait des figures imposées, là, mes cheveux grirent trop quand je dis ça. Mais dans mon temps, les figures imposées, c'était des mouvements extrêmement lents, extrêmement contrôlés. Et tu vois, entre autres, la fameuse figure que la juge brésilienne s'est trompée de pointage en 1992, le Albatross Spinning 180, c'était 1 minute 26 sous l'eau sans respirer. Okay. Mais naturellement, de nos jours, on n'a plus les figures imposées, on a des routines, donc ça bouge très rapidement, les mouvements sont dynamiques, sont puissants et tout, donc c'est impossible de garder la respiration aussi longtemps, mais c'est quand même fou le temps que les athlètes passent sous l'eau, remontent pour quelques respirations, repartent sous l'eau encore pour une bonne durée. Mais c'est juste le besoin physiologique cardio-respiratoire est vraiment différent si on compare avec dans mon temps.
Sylvie, tu t'es impliquée il y a pas longtemps dans cette bataille pour soutenir des jeunes femmes qui ont porté plainte contre Natation Artistique Canada, quelques entraîneurs et tout. J'aimerais t'entendre en ce moment sur deux histoires qui ont inondé les médias ces derniers jours. D'abord, celle de Logan Mailloux. Je veux savoir si pour toi, le Canadien a posé les bons gestes dans les excuses d'hier de Jeff Molson. Puis ensuite, je veux qu'on dise quelques mots aussi sur l'affaire Simone Biles.
Oui. Je pense que je vais me faire lancer des tomates, mais je vais y aller pareil. Hein? Tu l'as dit dans ma présentation que j'assume mes opinions.
Oui.
Le jeune homme, je pense qu'il sait que ce qu'il a fait, c'était pas correct. Il l'a avoué. Il a fait son mea culpa. Il a 18 ans. Est-ce que ça excuse le geste qu'il a porté? Tellement pas. Il a demandé à ne pas être repêché. il a été repêché. Maintenant, si je me mets dans la peau du Canadien de Montréal, est-ce que parce qu'on a fait une erreur à 17-18 ans, on doit être lapidé sur la place publique pour le reste de notre vie? Quand on a démontré par nos actions, par une thérapie, par qu'on veut apprendre de ça. En quelque part, j'ai trouvé ça courageux de la part du Canadien. Par contre, j'aurais aimé, moi, entendre dès l'annonce du repêchage qu'il y avait un plan de match. Moi, je pense que j'aurais été fière, en quelque part, que le Canadien de Montréal dise « on est très conscient du geste qu'on porte. On est très conscient du risque qu'on prend. Mais voici ce qu'on va faire avec et pour lui. On veut redonner à la société. On veut en faire un exemple. » Donc, non, il ne sera pas au camp des recrues. Non, il ne sera pas au camp. Mais on s'engage à l'accompagner.
Oui, et puis non, on ne va pas laisser la victime sans aide, etc. Parce que, oui. Alors, dans le fond, ce qui reste à voir, ce seront les actions. Parce que hier, Jeff Molson le disait lui-même, ce n'est pas les paroles qui comptent en ce moment, ce seront nos gestes. Alors, donc pour toi,
les paroles arrivent trop tard.
Ouais,
si c'était sincère, ce plan-là, je pense que tout le monde aurait été en admiration devant l'organisation du Canadien de Montréal.
Devant la sensibilité.
De dire, OK, il y a une victime là-dedans, puis il y a un jeune qui a fait une niaiserie. Il a posé un geste grave, mais il en est conscient. Accompagnons les deux et redonnons à la société. Devenons exemplaires dans notre action. Puis s'il ne se rétablit pas, s'il ne veut pas, ben, excuse mon Québécois, mais fuck off, va-t'en. Mais tu comprends, il faut que les bottines suivent les babines.
Ouais,
puis je me dis, pour moi, le droit à l'erreur doit exister, mais tu n'as plus de marge de manœuvre, par exemple. Fait que pour moi, ça a été dans le plan de communication, dans le timing de communication qui a été fait. Je pense que le même geste posé différemment avec le plan de communication de support posé dès l'annonce aurait eu un impact totalement différent et aurait eu tellement, selon moi, une vague de support envers les victimes puis envers les personnes qui ont fait une erreur dans leur vie puis qui ont envie de s'en repentir puis d'apprendre de ça.
Ouais. Écoute, moi, j'échangerai avec toi là-dessus pendant des heures parce que c'est très, très intéressant de t'écouter, mais je veux qu'on parle de l'autre gros dossier média de la semaine dans le monde du sport. Simone Biles, 24 ans, qui dit, après un saut dont elle n'était pas satisfaite, je vais dire le commun des mortels, pas vu vraiment ce qu'il y avait de si mauvais avec ce saut-là. Je veux que tu nous parles de la pression énorme qui pèse sur les jeunes athlètes, de sa décision de cesser, de son état. Elle a parlé de problèmes de santé mentale. Est-ce que tu penses que ça peut enlever une autre couche de tabou sur le sujet de la santé mentale?
Bien, je le souhaite. Je pense que de démontrer sa vulnérabilité est un des gestes qui demande le plus de courage dans la vie. Puis c'est vraiment les extrémités, hein? Courage, vulnérabilité.
Ouais.
Tu sais, quand on pense à... puis c'est l'aplomb avec laquelle elle a affronté la presse. Pour déclarer ça, écoute, moi je la regardais parler, là, j'avais les larmes aux yeux, la chair de poule.
Ah oui.
Je n'ai aucun doute de l'impact tsunami que va avoir ce geste-là, ces paroles-là, ce regard-là. Mais je nous souhaite que ça déborde et de loin le monde du sport. J'ai toujours dit haut et fort, tu sais, on va regarder dans le monde du sport, oh mais il se dope, oh il triche, oh ici, oh ça, c'est arrangé. Mais moi, j'ai toujours dit, le monde du sport, là, c'est comme si on prenait une carotte de la société. Dans la vie de tous les jours, dans le monde du spectacle, dans le monde des affaires, dans toutes les communautés, ben il y a des tricheurs, il y a des drogués, il y a du bon, c'est comme ça partout.
Ouais.
Ben des gens qui font face à des troubles de santé mentale, ben il y en a partout. Mais on dirait que quand on regarde les Jeux olympiques, on a tendance à nous projeter une espèce de cape de super-héros qui nous met à l'abri de tout. Mais là où je trouve que Simone Biles conserve sa cape de super-héros, c'est vraiment dans le sens de la responsabilité. Quand j'ai lu « Elle abandonne son équipe », la violence du mot « abandonne » m'a fait tellement mal.
Ouais.
Moi, j'avais envie de dire « Elle se choisit
». Voilà.
C'est tellement plus puissant comme mot, comme réaction. Alors, pour moi, Simone Biles, je la connaissais avant. J'avais beaucoup de respect pour ce qu'elle faisait, c'est clair, au niveau technique et tout, mais plus que jamais, elle est pour moi un exemple, une jeune femme incroyable.
Dis-moi, avant d'aller à la pause, en voyant l'affaire Simone Biles, j'ai pensé quand même beaucoup à toi, à 92. T'aurais pu craquer toi-même en 92 à Barcelone, te plonger à l'eau quelques jours après le suicide de ton fiancé. Je veux pas qu'on aille dans les détails de toute cette histoire, mais je veux simplement te demander, toi, où t'as puisé ta force à ce moment-là?
Ben, chaque cas est tellement personnel et unique. J'ai même pas eu à réfléchir parce que ce qui était plus clair que jamais dans ma vie, c'est que moi, j'étais vivante. Et la seule façon du haut de mes 25 ans que je connaissais de me sentir vivante, c'était de nager. Donc, j'ai même pas réfléchi, j'ai même pas douté. Pour moi, pour ma vie, pour ma survie, il fallait que je nage.
Ah, merci de ta franchise, c'est très touchant. Sylvie, on va s'arrêter pour une petite pause et on reprend cette belle conversation tout de suite après.
Le Québec maintenant. Voici Marie-Claude Lavallée.
De retour à notre belle rencontre de l'été ce soir avec Sylvie Fréchette. Sylvie Fréchette, quand tu as commencé en nage synchronisé, comme on disait à l'époque, maintenant natation artistique, tu étais d'une timidité maladive, tu as fini par sortir de toi-même. Ta coach de l'époque était d'une dureté. Quand on regarde ça aujourd'hui, tu as parlé de ton poids, ta carrure, mets pas ces vêtements-là, t'es laide là-dedans, etc. Et avec le recul et avec le soutien que tu as apporté aux jeunes femmes qui ont porté plainte contre Natation Artistique Canada, tu es d'accord pour dire que ça n'avait aucun sens. Tu as été abusée.
Oh, j'ai de la misère à dire ces mots-là. parce que c'est dans le temps, aujourd'hui, je réalise que j'ai subi des séquelles de tout ça. Mais je n'ai aucun doute de l'amour que Julie avait pour moi, mm-hmm. puis que c'était pas son but de me blesser. Puis aussi dans les années 80, bon, on se parlait pas de la même façon, on parlait pas, c'était pas les mêmes critères, c'était pas les mêmes mœurs. Par contre, qu'il y ait des gestes encore aujourd'hui en 2020 ou même parce que nous dans le code qu'on parle ici, c'est dans les années 2010 que ça se passe encore, qu'on ait des athlètes qui demandent de l'aide auprès de Natation Artistique Canada, des parents, des entraîneurs qui écrivent des lettres, des dossiers qui demandent une réaction et que la fédération refuse d'intervenir. Pour moi, c'est là qu'il faut intervenir. C'est là qu'il faut faire du changement. Et encore une fois, ben pour le moment, c'est incroyable à mes yeux, mais il y a zéro point barre qui a changé. Il y a rien qui a changé. Les mêmes personnes sont là, puis s'en vont aux Jeux olympiques, puis les pauvres athlètes qui vont être là, j'ai tellement de respect pour leur travail. Je les aime d'amour, ces athlètes-là. Mais je peux pas m'empêcher que d'avoir de la colère par rapport à la situation. La demande de recours collectif tient toujours, puis on est à près de 50 athlètes qui ont porté plainte. Mmh. 50 athlètes en 10 ans, et il n'y a toujours rien qui change. Alors pour moi, c'est une déception parce que j'aime mon sport d'amour. J'ai la natation, la nage synchro, disons-le, pour moi, c'est de la nage synchro oui. qui me coule des veines puis qui fait battre mon cœur. Puis ça me déçoit, ça m'attriste beaucoup de penser que mon sport est pas prêt à apprendre puis à grandir puis à sortir de cette mentalité préhistorique.
Ouais. Mais c'est pas fini cette affaire-là, j'espère.
Ben sincèrement,
c'est fini, c'est
pas.
Comme ça là, c'est y a rien qui a bougé puis les plaintes, ça ira pas plus loin.
Mais il reste le recours collectif qui est toujours en cours. Okay. Mais le recours collectif, ça changera pas les personnes qui sont en charge en ce moment à Natation Artistique Canada, qui ont dit avoir un nouveau plan, qui recrutent des gens pour un nouveau plan et tout. Ça fait 11 ans qu'il y a des plaintes. Puis maintenant, les mêmes personnes vont comprendre et vont changer. C'est drôle, mais je me donne un petit droit de douter.
je peux comprendre. Écoute, le temps file, ça n'a pas de bon sens, Sylvie. On pourrait passer des heures ensemble. Je veux qu'on dise quelques mots sur ton saut en politique. En 2019, mm-hmm. tu t'es présenté pour le Parti conservateur du Canada. Je voulais savoir si tu en étais ressorti déçu, fâché, ébranlé, éclairé ou un peu tout ça.
J'ai tout dit un peu tout ça, mais tout dans un timing, hein, tout dans un ordre. J'ai vraiment été très, très, très blessée, je dois l'avouer. Pas par la, moi j'adorais la campagne électorale, mon Dieu que j'aimais ça. C'était ben pas toujours, là, des fois on se fait ramasser solide par les médias, mais à part ça, rencontrer les gens, faire les débats sur la place publique et tout, et j'ai adoré ça. Mais vraiment là, c'était la méchanceté gratuite sur les médias sociaux durant et après. Oh my God! Et c'est là que j'ai réalisé que j'ai pas à Quinder. Moi, là, c'était, ça a été l'impact aussi que ça a eu sur mes enfants. J'ai ma grande Emma qui était au cégep, qui s'est fait dire, oh, ta mère, elle aime pas les gays, puis ma petite à l'école secondaire. Oui, c'est comme, puis ma petite à l'école, elle se faisait dire, peux-tu même dire pourquoi ta mère, elle se présente pour le parti de Trump? Là, ma jeune qui revenait, elle disait, maman, t'es pas pour Trump? Je disais, mais non, c'est quoi ça? Ma mère, fait que tu sais, c'est toute cette gratuité-là qui m'a vraiment fait très, très mal. Je me suis fait accoster, là, comme physiquement, par un homme dans un salon, au Salon de la mort où je donnais une conférence. Il a fallu que je sois escortée du salon. Qui me traitait de traître, que je devais dénoncer pour traîtrise à la société, puis de...
Mon Dieu, c'est intense.
Mais c'est fou, mais je suis contente parce que j'ai réalisé que c'est pas pour moi.
Ben, on sait jamais, peut-être pour toi, mais plus tard, dans un autre contexte, on sait jamais, parce que t'as tellement d'idées, et puis t'as tellement, justement, la parole libre que ça fait du bien. C'est rafraîchissant d'entendre quelqu'un qui a pas peur de dire les vrais mots. Écoute, tu parlais de conférence, j'ai entendu dire que après ton soin en politique, t'as perdu pas mal de contrats de conférencière. Est-ce que c'était encore là à cause du parti que t'avais représenté? Est-ce que c'était simplement parce que t'avais fait de la politique? Et surtout, est-ce que c'est reparti pour le bon côté?
C'est sûr que pendant la campagne électorale, puis au lendemain des élections, ben pour tous les candidats, ben toute notre carrière professionnelle doit être mise sur la pause. J'avais tout simplement pas le temps de faire des conférences à ce moment-là. Au retour, ça a été plus difficile, où l'on me disait « ouf, elle vient d'être identifiée avec un parti » et tout ça. Par contre, il y en a d'autres qui m'engageaient parce qu'ils disaient « elle a pas la langue de sa poche ». Avec Sylvie, on sait à quoi se tenir, mais les gens étaient plutôt timides. C'était bien reparti, puis là, ben il y a eu la pandémie. Fait que ça a été, encore une fois, ça a été pas mal à zéro, pas mal à plat, mais pour tout le monde. Donc, je l'ai pas pris personnel, cette pandémie-là. Ça a été vraiment désastreux pour tout le monde, des conférenciers. Puis là, ben je touche du bois parce que ça a l'air bien reparti. C'est beaucoup par Zoom, mais moi, je prends tout ce qui passe. Si je peux parler, échanger, inspirer les gens, là, c'est une de mes passions en ce moment.
Puis on a besoin de toi, crois-moi, on a besoin d'entendre une voix comme la tienne. Écoute, il nous reste une minute pour parler ensemble, puis une minute pour que tu nous fasses une petite recommandation de lecture. Tu dis, je prends toujours soin des autres, pas assez de moi. En pas trop de mots, parce que comme je dis, on manque un peu de temps. Est-ce que c'est en train de changer? Et c'est quoi prendre soin de toi?
Prendre soin de moi. Oui, je suis en train de changer. C'est difficile. Prendre soin de moi, c'est d'être capable de dire ça, ça me tente pas. Je me sens pas à l'aise. Je suis fatiguée. D'être capable d'accepter que juste d'aller promener mon chien le soir, même si j'ai le gazon mi-mollet, c'est correct. Parce que j'ai besoin d'aller promener mon chien. Puis je lui jase, là. Tu sais, je m'assois sur mon balcon avec une petite bière. Puis mon chien Bailey, c'est mon compagnon de vie, là. Comme. Mais avant, je me serais été paresseuse. Mais là, c'est vraiment d'accepter que je suis pas une super-héros, que j'ai plus 20 ans.
Que tu peux pas tout faire.
Puis que c'est correct que je regarde mon gazon pousser une journée de plus.
C'est bien correct, puis c'est bon pour les abeilles en plus. Écoute, un livre que tu nous recommandes à tous, finalement, ça va être presque juste le titre parce qu'il va falloir se laisser dans quelques secondes.
Le vieux qui refusait de mourir.
Oh,
j'adore.
Oui.
Je suis en train de le lire, c'est pas récent, mais je m'amuse à lire ce livre-là, mais en même temps, je réfléchis énormément. Alors, c'est léger et profond à la fois. Alors, je vous le recommande.
Le vieux qui refusait de mourir. Et puis, ben écoute, c'est là-dessus qu'on va se laisser, chère Sylvie Fréchette. Tu nous as fait passer une demi-heure exceptionnelle. C'est tellement riche ce que tu as à dire, ce que tu portes en toi. Un énorme merci, Sylvie Fréchette. Merci du fond du cœur.
C'est moi qui te remercie. À bientôt.
À bientôt, Sylvie. Merci à toute la belle équipe avec qui je travaille tous les jours. Une équipe formidable. Et merci à vous, auditeurs, tout aussi formidables. À demain. 15h.